Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bienvenue, ravi de vous retrouver pour Goodlux version week-end. Et vous le savez, désormais, les Goodlux se déclinent toute la semaine. Je vous retrouve tous les jours en direct à 13h sur BFM Business. Et puis, le week-end, je retrouve enfin mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et puisqu'on nous prône la consommation locale, eh bien, on vous a pris au mot et nous allons consommer local des alcools. Et oui, savez-vous qu'il existe de multiples microbrasseries à Paris, même une distillerie, et que des liqueurs ancestrales se fabrique encore aux portes de la capitale. C'est ce dont nous parlerons dans un instant avec Nicolas Jules. Il est le fondateur de la distillerie de Paris, Guillaume Roy, cofondateur de la bière Gallia Paris, et Jean-Pierre Cointreau du groupe Renault Cointreau, auquel appartient le noyau de Poissy. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et traditionnellement, mon cher Emmanuel, on commence avec la table de la semaine.
Table très cool, très légère. Alors, il y a beaucoup de nouveautés, les fameuses nouveautés de printemps, mais elles ont toutes du retard à l'allumage.
Ah.
C'est comme le temps, il a du mal à se cadrer. Donc c'est vrai que celle-là, elle a un petit mois déjà au compteur, mais elle fonctionne bien. 136 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 10e arrondissement. Ça s'appelle les Arlots. Les Arlots, c'est de l'argot, c'est de l'arguche.
Ah, ça
très
fait,
sincèrement,
ça.
Oui. Si ce n'est que j'ai demandé l'explication des Arlots au
c'est
double patron
clair.
De la... C'était très clair. Simplement, j'ai dû rester un peu tard dans l'adresse que j'ai oublié.
Ah,
donc, je sais pas, acheter la méthode à Mimille et demander ce que veulent dire les Arlots.
A-R-L-O-T-S.
Voilà. En tout cas, belle adresse, sympathique, parce que le binôme qui l'orchestre, salle, cuisine, sont des anciens de la Maison Blanche, puis les anciens du Beef Club. Et là, ils se retrouvent chez eux enfin. Ils font un bistrot en manière rétro-futuriste en termes de décor. On est dans plein de codes vintage, néo-nostalgique, avec le fameux comptoir en bois. Et puis, il y a des petites touches beaucoup plus contemporaines, vous savez, notamment avec tout ce travail autour de l'origami. C'est l'un des codes de décoration des bistrots en ce moment à Paris. En revanche, dans l'assiette, pas mal de bons petits plats. Là encore, des plats popus, mais vraiment travaillés avec une jolie touche. Je pense notamment au fameux merlan pané. Ici, il est juste croustillant. Accompagné d'une purée de panais. Et puis, comme on parle un petit peu aujourd'hui du fait main, presque du locavore, et mieux que du locavore, ils ont une saucisse maison, mais une vraie.
Ah.
C'est-à-dire que tous les matins, ils façonnent leur propre saucisse. Et c'est vrai que ça change tout.
Ah,
elle a du goût, elle est fraîche, elle est épanouie. En plus, ils savent la griller. Ils l'accompagnent là encore souvent des petites purées. Là, c'est une petite purée de carottes fan. À côté de ça, quelques jolies quilles, comme on dit. Et ça fait un bistrot tout léger.
136 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 10e. La prochaine fois.
Des prix plutôt sympathiques, notamment au déjeuner.
Et très bien, ça s'appelle les Arlots. La prochaine fois, vous nous dites ce que ça signifie. Ouais,
faut que j'arrête de m'endormir sur les banquettes passées 22h.
Allez, on reste dans le 10e arrondissement. On va un petit peu de l'autre côté de l'arrondissement. On se rapproche de la place de la République. On vous l'avait annoncé. Hôtel Paris, Renaissance République. C'est quand même, donc 40 rue René Boulanger, je vous donne l'adresse. C'est quand même le premier 5 étoiles du nord-est parisien. On en avait déjà parlé. Ils ont fait monter la sauce parce que c'est cette fameuse façade avec des grands hublots. Elle est classée années 60-70. On aime, on n'aime pas. N'empêche que derrière est passé l'architecte Éric Aour, le décorateur Didier Gomez. Qu'est-ce que ça donne sur 9 niveaux? Vous avez 19 chambres. Une suite avec jacuzzi, penthouse, grande terrasse sur le toit, plutôt pas mal. Et puis à l'intérieur, une déco assez sympathique, des sortes de nuages au plafond. Les chambres sont un peu toutes différentes, enfin il y a plusieurs styles. Et assez graphique, des touches de couleurs. Et franchement, finalement, cette façade un peu décalée à mon sens quand même de l'extérieur, de l'intérieur... Eh ben, ça donne un aspect chouette, ces grands hublots ovales. Et après, dans l'idée, de toute façon, c'est la création artistique à l'honneur. Comme il y a eu des happenings artistiques au moment des travaux, eh bien, il va en avoir tous les mois. Il y a un creative manager qui pense à tout ça. Donc voilà, faut suivre, c'est vraiment l'hôtel.
Il y a
l'hôtel.
Un restaurant, je crois, d'ailleurs.
Il y a un restaurant, il y a un bar. Et tout ça est vraiment ouvert sur la ville. C'est-à-dire que le spa aussi, le spa Au by Sosis, le restaurant origine avec le chef d'origine bordelaise Bénédicte van der Motte, le bar,
comme son nom l'a dit.
Tout ceci est vraiment ouvert sur la ville. Et l'idée, c'est qu'il y ait des échanges. 40 rue René Boulanger.
D'accord.
Vous êtes dans le quartier où vous avez aussi des bars qui ont ouvert, le Lavomatic, le Coq, etc. Ce quartier... qui monte, en tout cas qui bouge pas mal.
Et vraiment... avec vue sur Nuit Debout.
Ouais, c'est un peu le problème.
C'est trop.
Le prêt de vélo rétro, enfin plein de petites choses à découvrir, c'est à partir de 300 euros. Pour l'instant, c'est sûr que la proximité de la place République ne joue pas vraiment pour eux.
Mais c'est pas là, mais ils parlent du happening, ils ont qu'à inviter les gens de
Ville-Debout, ils vont leur faire du happening. Surtout qu'on n'a pas véritablement vu sur la place de la République, sauf sur certaines chambres, donc vous pouvez l'oublier. Voilà, vous pouvez l'oublier.
Je trouve que ça peut les lancer.
Voilà, l'hôtel Paris Renaissance République. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandre Desprenois, bonjour, toute printanière aujourd'hui. Sur le web, il se passe quoi?
Alors d'abord, fasciola.fr, c'est un moteur de recherche en ligne dédié à la mode, hommes, femmes, enfants, vêtements, chaussures, accessoires, qui va en fait centraliser tous les produits disponibles dans telle ou telle boutique et vous faire, par exemple, si vous cherchez une paire de mocassins rouges, vous allez taper « mocassins rouges », tous vont apparaître et on va aussi vous mettre des slippers rouges par exemple. Donc on va véritablement comparer des comparables et ça va beaucoup plus vite pour l'acte d'achat. Ça recense près de 2 millions de produits, 50 boutiques en ligne, 1800 marques. Ça existait déjà à l'étranger, là ça vient en France. Et puis en plus ils proposent un blog mode tendance qui permet aux internautes de créer leur tableau d'inspiration, de tendance. Oui.
Ça, non mais c'est vraiment pratique quand on cherche un produit précis, comme
c'est
vous
ça,
dites, parce que ça fait gagner un temps fou.
Et il y a vraiment de tout. Moi j'ai tout essayé. Les trucs un peu difficiles, je les ai faits, ça ressort.
Bien sûr.
Voilà.
Les trucs difficiles, par exemple.
Par exemple, mocassin rouge, c'est pas si simple. J'ai tapé maillot de bain jaune et bleu. Enfin, vous voyez, pas mal de trucs un petit peu pointus.
C'est un peu tordu.
Et oui, non, mais c'était pour voir si ça marchait vraiment.
C'est votre profession.
Et ça marche.
Et chez Bang & Olufsen, ça marche?
Oui, alors ça marche très bien. Là, vous savez.
Pas parlé de Bang & Olufsen.
Oui, c'est vrai. Produit audiovisuel de luxe. Et bien là, ils sortent une application uniquement sur iPad qui s'appelle BO Home Design et qui va nous permettre de mettre en place dans notre intérieur avec une réalité augmentée via l'iPad des objets de la marque. Donc en fait, ça marche très simplement. Vous prenez l'iPad, vous prenez en photo un magazine ou n'importe quoi qui vous sert de marqueur et ensuite vous le placez où vous voulez dans votre pièce et ensuite il suffit de mettre l'iPad devant, là devant le magazine par exemple pour dire bah là il y aura une télé, là il y aura un meuble d'enceinte musique, je sais pas quoi, et vous positionnez tout comme ça. Évidemment après vous pouvez faire plein d'autres choses avec l'application, changer le parquet, mettre une décoration murale bien précise, changer la couleur des enceintes, etc. Et vous visualisez véritablement le produit Bang & Olufsen dans votre intérieur.
D'accord.
Ah, c'est pas mal. C'est vrai que ça existait pour du mobilier, mais là, c'est pour la hi-fi.
Ouais.
Ça fonctionne aussi. Voilà. Et puis, pour nous mettre en jambes pour notre thématique du jour, la maison de cognac,
plutôt,
Rémi Martin.
En jambes, en coude.
Exactement.
Avec modération, bien sûr.
Rémi Martin qui vient de nous proposer une vidéo interactive. Alors là, on suit une jolie femme blonde avec notre verre à la main. On est vraiment dans une soirée. Alors, l'idée, c'est de débloquer un maximum de contenu parce qu'à la fin, on rentre ses coordonnées pour gagner tout un tas de cadeaux. Le seul petit hic, c'est qu'il y a certains trucs qui ne marchent pas. Moi, j'ai voulu trinquer avec les convives. Je n'ai jamais réussi. On m'a dit tout le temps « Oups, vous avez renversé votre verre ». Donc, il y a une façon de bouger l'iPhone. Et franchement, il y a des moments, c'est énervant. Cela dit...
En même temps, vous étiez en train de siroter gentiment un cognac Rémi Martin. C'est un petit peu compliqué.
Mais gentiment, parce que des fois on danse, elle nous fait prendre en photo avec ses copines, etc. Donc c'est l'idée est bonne, et il y a des choses qui marchent, mais il y a des moments où c'est frustrant. Alors si on n'y arrive pas avec l'iPhone, il y a la vidéo sur le site. Ça c'est sur onenight.remymartin.com et c'est plutôt joli quand même.
Merci beaucoup, et tout ça à consommer avec modération.
Bien évidemment,
bien entendu. Merci infiniment,
Sandy
Prenois. Allez, on poursuit, Emmanuel, avec une petite sucrerie.
Ah oui, mais alors là, un gros coup de cœur et une super belle idée. Moi, je trouve que les concepts souvent ne font pas recette, mais là, c'est tout l'inverse. Ça s'appelle Food Pâtisserie. C'est une pâtisserie qui vient d'ouvrir dans l'une des rues les plus gourmandes de Paris, la rue Montorgueil. Exactement, nous sommes au 45. Ce sont deux jeunes filles, des becs sucrés, comme on dit. La première s'appelle Julie Mathieu, l'autre Muriel Talandier. Elles ont d'abord créé un magazine qui existe toujours, qui s'appelle Food Pâtisserie, et elles ont la bonne idée, dans une petite pâtisserie, de réunir toutes les pâtisseries signatures des plus grands pâtissiers parisiens et français. C'est-à-dire que vous n'avez plus à courir tout Paris, vous allez vous retrouver dans cette petite boutique et vous retrouvez le fameux éclair caramel beurre salé de Christophe Adam. Vous allez retrouver l'Equinox, l'une des pâtisseries phares de Cyril Lignac. Vous allez trouver le Filgou. Le Filgou, ça c'est... je suis plus mince, j'ai oublié celui qui l'a signé, mais bon, peu importe. Vous allez trouver des pâtisseries de Jacques Génin. Vous allez
le meilleur de la pâtisserie parisienne réunie en un lieu.
Le meilleur de la pâtisserie parisienne réunie. Souvent, les fameux desserts signatures. Mieux que ça, d'ailleurs, plus que parisienne, puisque je crois que Fabrice Gilotte, qui est un très grand chocolatier et pâtissier dijonnais, a accepté de jouer le jeu. Et lui, il propose ses friandises chocolatées, tout comme Hugo et Victoire. C'est-à-dire que le seul petit souci, c'est que la boutique était encore très petite. C'est une micro-boutique, donc elle peut pas s'étendre parce que c'est vrai qu'on voudrait un peu tout goûter et puis on voudrait avoir un peu plus de gamme. Ça viendra sûrement. En tout cas, là, vraiment, très belle idée. C'est une boutique hommage au savoir-faire de ces pâtissiers artisans et aussi à ces recettes qui sont inspirées, puisqu'on les appelle les recettes signatures. Moi, j'ai trouvé que voilà une très belle idée.
Fou de pâtisserie, rue de Montorgueil, dans le 2e arrondissement de Paris. Allez, pour terminer, je vous fais rêver avec l'objet de la semaine, plutôt les objets de la semaine. Des objets absolument exceptionnels. D'ailleurs, il n'en existe qu'en édition limitée, qu'en exemplaire unique. Je vous emmène chez Hermès, ça faisait longtemps. Le service sur mesure d'Hermès. Le département sur mesure qui fait des choses absolument formidables, parfois totalement inutiles, mais on adore. Un étui à pomme, ça c'était, donc il ressemble à une pomme granny en cuir avec tout le savoir-faire que cela implique. C'était une commande particulière. Une selle de cheval ailée rouge, orange, jaune, avec des cuirs différents. Elle avait été réalisée pour une vitrine du faubourg. Mais vous avez aussi, par exemple, une poignée de porte qu'on peut simplement gainer de cuir ou un étui à enclume, par exemple.
Ah, mais moi, je trouve que c'est là
en
encore
cuir
c'est de la poésie,
noir hein. Et chèvre gold, réalisé, enfin, en tout cas, dessiné par l'artiste Jean-Michel Alberola. Juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est capable de faire le département sur mesure d'Hermès.
Je ne sais pas si sur le site d'Hermès, il y a quelques clichés de ces créations-là, mais c'est vraiment de la poésie. Il y a un côté, c'est la rencontre de dada, du dadaïsme et du chic. C'est formidable. C'est vrai qu'on aimerait ne pas parler d'Hermès régulièrement, mais là encore, bingo, en plein dans le mille, quoi. Ah, j'ai adoré.
Donc, voilà. Et ben voilà, donc on va continuer à vous faire rêver. Vous allez découvrir tout ce qui se passe dans les arrière-cours parisiennes en termes de spiritueux. Vous allez voir, c'est assez étonnant. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de Locavore cette semaine. Mais attention, côté liquide, côté alcool, bien entendu, nous allons consommer avec modération. Mais il faut quand même que l'on vous raconte ces histoires. Savez-vous qu'il y a presque 25 brasseries, donc de créateurs de bière à Paris et en Ile-de-France, qu'il existe des liqueurs qui datent de 1798 et que désormais, il y a un gin et une vodka parisienne. Nous allons en parler avec Jean-Pierre Cointreau. Bonjour.
Bonjour.
Président du groupe Pronos Cointreau, auquel appartient le noyau de Poissy, donc 1698. Sa naissance est toujours fabriquée à Poissy. Guillaume Roy, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de la bière Gallia Paris, qui vient donc d'ouvrir sa brasserie aux portes de la capitale. Et Nicolas Julès, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de la distillerie de Paris, ouvert il y a un peu plus d'un an, c'était en janvier 2015. Et là, c'est au cœur de Paris, dans le 10e arrondissement. J'ai envie de vous laisser l'honneur, Jean-Pierre Cointreau, pas simplement parce que vous êtes le plus ancien, mais moi peut-être aussi, y aller décrescendo peut-être sur la teneur en alcool de tout ceci. En tout cas, pourquoi cette tradition du noyau de Poissy né, et d'abord, qu'est-ce que le noyau de Poissy né donc aux portes de Paris en 1698
hein. Alors, né aux portes de Paris, il y avait environ en 1900 20 distilleries dans le simple village de Poissy, parce que il y avait eu une foire aux bestiaux qui approvisionnait avant les Halles toute la ville de Paris. Malheureusement, au milieu du Second Empire, cette foire aux bestiaux a disparu et la distillerie de Poissy est en fait aujourd'hui la seule distillerie qui continue à produire non seulement le noyau de Poissy, mais également le noyau de Vernon et la liqueur de Paris, c'est-à-dire en fait des liqueurs qui sont toutes faites à base de noyaux ou d'amandons de noyaux, parce qu'il y a une tradition de fruits à noyaux en Baie-de-Seine.
Et à Poissy, je crois que justement, c'était la cerise. Je crois qu'il y avait beaucoup de cerisiers à Poissy. Alors, peut-être que je me trompe, mais je crois.
Absolument. Le noyau de Poissy, lui, est fait à partir de l'amandon du noyau d'abricot.
D'accord.
Le noyau de Vernon est fait à partir de cerises.
Vernon, et c'est un peu la Normandie déjà, mais c'est vraiment les limites de la Normandie et l'Île-de-France.
Effectivement. Et nous avons réussi à réunir ces trois, ou même ces quatre liqueurs, puisqu'il y a deux noyaux. L'un qui est ambré et l'autre qui est couleur cristal, qui sont donc des liqueurs à base de noyaux ou d'amandons de noyaux.
Alors vous venez de le dire, il y avait vraiment un terroir, si ce n'est parisien, du moins francilien, autour des alcools et notamment de ces liqueurs. Comment se fait-il que ce noyau de Poissy est la seule distillerie à avoir sauvé sa peau en quelque sorte?
D'abord, la distillerie...
Parce que la liqueur est tellement rare, tellement bonne, parce qu'elle a un goût...
Non, parce que d'abord, il y a eu des gens qui ont su continuer un travail de personnes physiques ou familiales. Alors il y a eu en plus derrière le noyau de Poissy une fabuleuse histoire entre le véritable noyau de Poissy de Monsieur Dumont et le vrai noyau de Poissy de la famille Duval. Et comme toujours, quand il y a une bagarre sur un produit, ça fait de la publicité au produit.
Cassoulet.
Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez encore beaucoup d'activités dans cette région des Yvelines. Et le noyau de Poissy est bien sûr consommé à Poissy, mais il va même être consommé dans la région de Sochaux-Montbéliard, tout simplement parce que vous avez des ouvriers de chez Peugeot, Citroën, qui sont venus travailler à Poissy et ensuite sont allés travailler en Franche-Comté. Et donc, ont emmené le noyau de Poissy là-bas.
C'était les usines de Poissy.
Tout à fait.
Et ça fait vraiment partie des traditions locales, mais quand même, vous vendez un petit peu autour de Poissy, vous venez de le dire, finalement. Jean-Pierre Cointreau, 25 000 bouteilles par an, mais la fabrication, elle est toujours la même qu'il y a plusieurs dizaines d'années, centaines d'années?
Alors, je me suis fixé une règle. À chaque fois que nous avons eu l'occasion de reprendre une vieille marque familiale, de rester ou quelquefois revenir à la recette d'origine avec des ingrédients naturels, avec un processus traditionnel. Aujourd'hui, le noyau de Poissy, c'est une distillation qui dure 7 heures. Mais si je vous parle de la distillation de la verveine du Velay en Auvergne, c'est 17 heures de distillation pour arriver à tirer l'essentiel des plantes ou des fruits que l'on distille.
Donc 7 heures toujours aux portes de Poissy, c'est une à deux fois par mois, c'est ça?
C'est à peu près ça, ça dépend effectivement des volumes de vente et des saisons. Nous avons effectivement un distillateur qui vient pour la journée, pendant que la boutique est fermée le lundi, pour faire la distillation, puisque nous avons le musée, la distillerie et la boutique, voilà, 105 avenue du Général de Gaulle à Poissy, faut le préciser.
C'est ça que je voulais poser, parce qu'aujourd'hui, un vrai œnotourisme ou un gastrotourisme.
Spiritourisme.
Ou spiritourisme. Mais c'est vrai que souvent, d'ailleurs, les Chartreuses dans le Vercors, ça se visite. L'usine Bire, je crois, du côté du pays catalan, quand on visite cette usine, c'est absolument extraordinaire. Je crois que c'est à Fécamp où il y a la fameuse.
Bénédictine.
C'est
fait un tour de France.
C'est un chef-d'œuvre architectural, c'est unique à Fécamp, cette distillerie. Est-ce qu'on peut donc visiter le musée?
Alors, nous pouvons recevoir les personnes qui appellent, prendre rendez-vous, ou même les groupes. Nous sommes bien sûr ouverts à l'occasion des journées du patrimoine et en un certain nombre de dimanches dans l'année, mais c'est sur réservation que l'on fait des visites au musée du noyau de Poissy. Alors que par exemple au Cassisium en Bourgogne, on reçoit 50 000 personnes par an pour le Cassis Védrenne, il y a effectivement une ouverture permanente.
À quoi, pour ceux qui n'ont jamais goûté, je pense qu'il y en a quelques-uns parmi nous et parmi nos auditeurs et téléspectateurs, à quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Le noyau de Poissy, vous disiez, hein, vous en aviez deux.
Alors le noyau de Poissy ambré, qui est à 25 degrés, est en fait l'ancêtre de l'amaretto.
D'accord.
Donc ce petit bout d'amande, exactement. Le noyau de Poissy à 40 degrés, qui est donc couleur cristal, serait beaucoup plus proche d'un triple sec, d'un Cointreau, ou d'un Grand Marnier Cordon Jaune.
Bien sûr, à déguster avec modération. On les trouve où alors?
On les trouve bien sûr à la boutique, avenue du Général de Gaulle, ou sur un site internet qui s'appelle premiumliqueur.com. Et nous sommes avec différents formats, enfin, etc.
On va y revenir, hein, parce qu'il y a un grand engouement et un grand retour des liqueurs. D'ailleurs, il y a une manifestation, on en reparlera tout à l'heure, qui va avoir lieu au mois de mai. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent à nouveau sur tout ce patrimoine des liqueurs françaises. On voit qu'il y a un vrai terroir, hein, qui se répond depuis la Savoie jusqu'au pays catalan, depuis la Bourgogne, bien évidemment, jusqu'à l'Île-de-France. On a comme cela un tour de France des liqueurs et ça revient très fort. Peut-être parce qu'il y a aussi une nouvelle génération de buveurs, je ne sais pas, mais aussi de mixologues, de barmen, qui commencent à voir qu'avec ces liqueurs, il y a une manière de texturer le cocktail, de lui apporter une nouvelle palette aromatique. C'est le grand retour de la liqueur.
Alors,
et aussi, c'est le grand retour des distilleurs. Attention, voilà. Celui-là, il est rock'n'roll.
Donc, janvier 2015, dans le 10e, 5 ans de démarche avec votre frère Sébastien pour ouvrir le premier alambic légal parisien. Vous avez enfin réussi autour de cette idée. Donc, je ne sais pas si vous faites des liqueurs d'ailleurs. Est-ce que vous faites déjà des liqueurs? Parce que vous faites déjà du gin, de la vodka, pas mal de choses.
Ouais. On va y revenir. On en profile pour des expériences, mais qui ne sont pas commercialisées pour l'instant. Mm-hmm. Et Distillerie de Paris, le projet, moi j'ai un énorme respect pour justement toute cette tradition liquoriste de la distillation française. Il y a par exemple, on en parlait tout à l'heure, un savoir-faire à Cognac qui est absolument incroyable et qui n'existe nulle part ailleurs au monde certainement. Et nous, à la base, on est une famille d'épiciers. On vend par exemple le noyau de Poissy, bien sûr. Et on a, on avait comme ça toujours cette, on s'imbibait de toutes ces techniques, etc. On avait beaucoup de passion. Et souvent, vous voyez que la tradition avait amené cette qualité et par contre pouvait être un frein. C'est un peu comme la langue d'Ésope, quoi. À la fois, ça amène une super spécialisation magnifique. Les AOC sont même venus les cadrer. Et en même temps, ça brise
la création de l'audace.
Et donc, l'idée de Distillerie de Paris, c'est revendiquer Paris comme un terroir de créativité.
C'est-à-dire, vous testez tout ce que l'on peut distiller. C'est un peu ça.
Alors, c'est pas tester pour tester. On prend pas une liste et on se dit, bon, ça on fait, ça on fait. Par contre, ça part toujours d'une vision esthétique. C'est-à-dire que c'est comme, si on réfléchit bien, la France n'a pas inventé la distillation, n'a pas inventé le parfum, n'a pas inventé le chocolat. Et néanmoins, on a un certain leadership dans ces métiers-là.
Grâce à la créativité.
Et là, on a quand même un sens.
L'esthétique.
On a plein de défauts, mais on a un sens de l'esthétique en France qui est certain.
Et. Mais il est certain, quand on parle d'ailleurs des fameux flacons de liqueur, ce flaconnage, il n'est pas innocent. On parlait de Cointreau. Tout le monde a en tête, quand même le flacon de Cointreau. Il a pu évoluer, mais il a ses codes. Quand on voit aussi le génie qui était des étiquettes parfois, la typologie d'une marque comme Beer, d'un slogan comme Dubonnet, ça a participé, je crois aussi, du génie de ces alcooliers qui étaient très créatifs. Si on évoque le Ricard et le Pastis, eux aussi, au-delà de leur alcool, ils ont développé une iconographie qui est absolument énorme. Et donc ça, moi, je crois beaucoup.
À la distillerie de Paris.
Donc là, l'idée, c'est d'aller... on part d'une idée esthétique. Par exemple, un des projets qui est parmi les plus récents, c'était, on a des ruches sur le toit, mais c'est plus militant parce que je pense qu'il faut faire très attention aux abeilles, on s'y pose pas assez. Et en entretenant les ruches, il y a cette fameuse propolis, qui est un espèce de désinfectant magique et un antifongique que fabriquent les abeilles. Et cette odeur m'obsédait. Et la travailler sur une technique gin ou flavored vodka, c'est-à-dire on prend de l'alcool comme un espèce de super solvant, l'alcool neutre que l'on achète. On met des éléments pour le gin, on va mettre du genièvre et des botaniques pour créer une esthétique sur la même technique que l'histoire de la première parfumerie, finalement, alcoolisée. Et quand on essayait de faire ça sur des notes qui font passer à la propolis, c'était compliqué de tout passer dans les queues que l'on ne garde pas. Donc, du coup, il y avait cette idée qui m'obsédait sur la propolis. Et in fine, ça s'est terminé en prenant le miel, en le distillant, en faisant donc un hydromel distillé, un alcool blanc à base de miel.
Ça devient de l'hydromel, ouais.
Voilà. Et avec ce que cristallise Paris en tant que terroir de créativité, on a aggloméré plein de gens, notamment un tonnelier que j'adore, un tonnelier fantastique qui s'appelle Seguin Moreau, qui est à Cognac, ça s'invente pas. Et on a développé ensemble une ligne de fût, mais on a même développé un fût pour cette obsession du miel. C'est un fût en chêne avec les fonds qui sont en acacia et qui ont été révélés cette petite note de propolis que je voulais.
En fait, la distillerie de Paris, c'est un laboratoire de R&D, c'est ce que vous faites un petit peu. Vous avez fait fabriquer sur mesure un alambic par les Allemands avec les meilleurs qui savent faire un alambic. Vous allez travailler les meilleurs tonneliers. Vous prenez un petit peu ces matières premières. Mais on a l'impression, à vous écouter, on pourrait vous croire Doudin, Nicolas Julias, mais vous sortez véritablement. Vous avez déjà sorti gin, vodka. Vous travaillez avec des barmen.
Ouais, on a eu la chance d'être distribué dans des très beaux établissements comme le Drugstore Publicis, le Bon Marché, la Vigna, le Cave Auger, qui est une référence à Paris. On est aux aéroports de Paris, donc ça c'est une super vitrine aussi parce que des distillateurs du monde entier goûtent nos produits, on a des discussions avec eux. Mais on cristallise aussi beaucoup d'intérêt de tonneliers, de producteurs de matériaux où la technique est mise en avant et souvent leur clientèle habituelle n'en parle pas parce qu'il ne parle que de tradition, de chais ombragés, etc.
Et non, vous avez choisi le gin et la vodka parce que ce sont deux alcools justement qu'on peut imprégner, qu'on peut climatiser, aromatiser. C'est des alcools un peu neutres, un peu buvards.
Est-ce qu'on
peut imaginer avec le même respect et la même intelligence un whisky parisien? Je suis pas persuadé.
Alors il en a.
Est-ce qu'il y aurait une vraie logique? Parce que je veux dire, on sait quand même que les terroirs écossais, irlandais, même si aujourd'hui on voit des whiskies en Bretagne, en Corse, ils sont quand même imprégnés d'un savoir-faire. Vous parliez d'une eau qui est une eau à nul autre pareil, d'un climat qui est un climat à nul autre pareil, qui vont infuser, ils vont vraiment créer un terroir du whisky. Alors que c'est vrai que les vodkas ou le gin, on peut les aromatiser, c'est polonais, c'est russe, mais il y en a en Suède, il y en a un peu partout dans le monde. Derrière, tu peux aromatiser. Est-ce que le whisky pourrait vraiment devenir un terroir parisien?
Alors il faut faire attention, parisien, nous on distille à Paris, mais le marché se rend pas compte parce que ça va venir, mais dans les 5-6 prochaines années, le whisky artisanal mondial sera français.
Ah bon.
Les Français sont des très bons distillateurs, parmi les meilleurs du monde. La grande tonnellerie, on l'a inventée.
C'est vrai.
On a un sens esthétique et les premières distilleries, les pionniers comme Varenghem en Bretagne, etc., ont comme des pionniers, ça a été dur et souvent ils ont un peu copié les Écossais. Et il y a une fédération maintenant du whisky français qui s'est créée il y a quelques mois. On est à la manœuvre tous pour...
Donc ça veut dire que vous allez sortir un whisky.
Et, ah oui, bien sûr. Mais on a sorti des rhums qui sont... notamment des rhums avec un... On a été chercher, par exemple, un super sirop galadé que vous connaissez certainement.
On fait une petite pause, Nicolas-Juliette, parce qu'il faut absolument faire une petite pause pour pouvoir en profiter de tout ceci avec modération. Et vous allez nous parler de votre rhum, bien entendu. Et puis, on parlera aussi de la bière, parce que là aussi, il se passe énormément de choses à Paris. On se retrouve tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Des Goûts de Luxe entre brasseries et distilleries parisiennes. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Cointreau, président du groupe Renaud Cointreau, pour le noyau de Poissy, de Nicolas Jules, fondateur de la distillerie de Paris, et de Guillaume Roy, cofondateur de la bière Gallia Paris. On va y venir dans un instant à cette bière parce que grand engouement. Mais je voudrais juste finir la réponse avec vous, Nicolas Jules, juste avant la pause. On parlait de la création de votre rhum. Moi, je crois qu'il y avait aussi une question de vieillissement pour toutes ces questions-là, pour justement le whisky, le rhum, qu'il fallait que tout ça vieillissent un petit peu. Vous dites non, regardez, et vous venez de sortir un rhum distillerie de Paris.
Voilà, alors il est vieilli exactement comme ce que représente la distillerie de Paris. Pour le vieillissement, il existe des paradigmes un peu de vieillissement. Le modèle, on va dire, whisky avec des fûts d'occasion, modèle cognac avec des fûts qui partent du neuf et qu'on évolue. Nous, on a créé un mode de vieillissement hybride, justement avec ce Gamoro, qui est un vieillissement dynamique. Les spiritueux changent de fûts plusieurs fois par mois et avec une dégustation 3-4 fois par semaine. Donc, on a fait vieillir nos spiritueux. Pour le whisky, il aura forcément au moins 3 ans. Dans 2 ans maintenant, on sortira un whisky parisien. Pas pour se revendiquer whisky parisien, pour dire distillerie de Paris a été chercher des choses dans le monde du whisky qui ne peuvent pas être explorées dans des distilleries plus grosses. Mmh. Moi, je trouve que être petit et parisien et se cacher derrière ça, ça a aucun intérêt. Nous, on se revendique pas locavore, on se revendique pas micro, on se revendique créateur d'esthétique. D'accord. On a une obsession de l'esthétique du goût.
On va dire terroir créatif.
Exactement.
Terroir créatif, c'est parfait. Chez Gallia, vous venez, ça fait un moment que vous avez lancé votre marque.
Ça fait 5 ans, ouais.
Guillaume Roy. Sauf que ça y est, là, vous êtes chez vous. Vous avez votre brasserie. On dit Paris, on est aux portes de Paris, hein.
À Pantin,
voilà.
Dans le nouveau Paris.
Alors, là, pour le coup, vous revendiquez un terroir?
Sur la bière, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai qu'on va travailler des ingrédients en fait. Et moi, je compare plutôt la bière à une cuisine avec un chef cuistot. Notre chef cuistot, c'est le troisième associé, Simon Hichère, et c'est lui qui fait sa recette, sa tambouille avec les différentes variétés de malt, avec les différentes variétés de houblon, et c'est lui qui va insuffler sa pâte finalement au bière Gallia.
Alors quand on parle de locavoris, justement, est-ce que c'est céréales, ce sont des céréales d'Île-de-France, est-ce que c'est important pour vous aussi ce sourcing?
Alors, on travaille principalement avec des matières premières françaises, mais on va essayer de sourcer la meilleure matière possible.
Donc, d'Île-de-France ou d'ailleurs?
Voilà. On essaie de travailler avec du malt d'Île-de-France, puisqu'on a la chance, en France, d'avoir une grosse production d'orge. Après, il est malté à différents endroits, notamment en France, mais on va utiliser certaines variétés de malt beaucoup plus pointues que les malteurs français ne savent pas travailler. Pareil avec le houblon. Le houblon, en fait, on va avoir des nouvelles variétés étrangères qui ont des saveurs, enfin, des aromatiques bien complexes et bien différentes. Et on est obligé d'aller chercher à l'étranger. Les Français commencent à s'y mettre, les producteurs de houblon, mais il faudra encore quelques années
avant qu'ils... C'est un peu ce que dit Nicolas Jules, vous permettez, parce que vous êtes plus petit, plus indépendant, des audaces que peut-être des maisons plus installées ont du mal à bouger les lignes.
On essaie en tout cas de rechercher le meilleur produit possible, et donc pour ça, on essaie de chercher les meilleurs ingrédients. On privilégie le terroir français, en tout cas, pour
plus,
ces ingrédients.
La bière, c'est pas un terroir, c'est des terroirs. Il y a à peu près des bières, je crois, dans le monde entier, avec peut-être des pays un peu plus marqués, un peu plus cultes, mais il n'y a pas un terroir de bière. Il y a des bières trappistes dans le nord... mais il y a des bières scandinavies, il y a des bières bien sûr en Irlande.
Des secrets de fabrication, des méthodes ancestrales qui sont liées à un pays, en fait, on va dire. Mais c'est plutôt des méthodes de fabrication. Après, ce qu'il faut trouver en France, c'est la méthode de fabrication de bière française et même de bière parisienne. Ça, il faut l'inventer. Mais il y a tellement de possibilités dans la bière que c'est à tous les brasseurs franciliens de s'inventer
c'est ça,
un style
parce que vous
de
avez,
bière.
Vous étiez parmi les premiers, mais depuis que vous avez été suivi, il y a quoi? Il y a 25, on disait à peu près, ou plus de 20.
Il y a plus de 25 brasseries.
Comment vous expliquez d'abord cet engouement et cette montée en puissance? C'est un effet de mode? C'est parce que, pourquoi il y a comme cela, en 5 ans, 25 brasseries à Paris, en Ile-de-France, qui se sont montées? Alors j'imagine avec plus ou moins de sens, plus ou moins de bonheur, mais ça répond à quelle demande et à quelle envie, à quelle intuition?
Ça répond clairement à une demande de consommer local, ça c'est un élément, et puis à un côté un peu urbain qui a envie de nouveautés, de créativité dans les produits, ce qu'il ne retrouvait plus en tout cas chez les grosses maisons de bière. Maintenant, c'est vraiment assez impressionnant à quel point il y a tellement de choses à faire en France, puisqu'on était à la traîne en fait. En France, on s'est pas mal laissé endormir par ce qu'on nous a proposé pendant de nombreuses années.
La traîne par rapport à quoi?
Par rapport aux autres pays, en fait. Si finalement, on peut observer que c'est pas une tendance, puisque ce phénomène des microbrasseries aux États-Unis, là où ça a été relancé il y a 20 ans, c'est encore en train d'exploser 20 ans après, et c'est vraiment assis dans les grosses cité comme New York, etc., on est à plus de 20% de consommation de bière régionale.
Mais qu'est-ce que ça change, par exemple, pour moi qui connais mal, par exemple, la bière, le milieu de la bière?
Simplement,
vous allez plus respecter. Et dans le goût, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans les propositions? Est-ce que, du coup, les bières sont
différentes? On va prendre plus de risques, éventuellement. On va changer la dénomination de la bière. On va arrêter de parler que des couleurs, par exemple, de blonde, ambrée, blanche. Parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de connaître la bière en France. Mais ça a été une facilité, on va dire, de simplifier le produit bière pour le rendre assez basique. On va le complexifier un petit peu en cherchant exactement ce qu'est une blonde, des différents types de blondes, ce qu'est une brune. Et moi, je peux vous proposer des bières qui ont des goûts de blonde, mais qui sont de couleur brune. Donc après, plus rien à voir. Il faut vraiment revoir la consommation de bière sur un produit qui peut être complexe, différent, qui peut se boire à table.
Une palette beaucoup plus large.
Ouais.
Alors, c'est intéressant, là, vous avez amené trois bouteilles,
trois styles différents,
Gallia. Alors, effectivement, il n'y a pas écrit bière, il y a blonde, si.
Alors, on a de la Stout Lager.
C'est vrai que malgré tout, quand on n'est pas un spécialiste, c'est des sémantiques qu'on connaît un peu, mais on ne sait pas bien ce qui se rattache. Alors, la Lager, je suis complètement perdu.
Il faut vraiment expliquer, et c'est notre rôle justement d'éduquer le consommateur à ces styles de bière. On écrit en deuxième ligne, bien sûr, pour pas qu'il soit totalement perdu, le style auquel ça se rattache. Mais par exemple, pour l'IPA, on peut pas dire que c'est une bière ambrée, même si la couleur du malt qu'on va utiliser va donner une couleur plus ambrée qu'autre chose. Mais en fait, l'IPA, c'est le phénomène depuis ces 20 dernières années aux États-Unis. Et c'est une histoire assez sympathique, on va dire. C'est India Pale Ale. Alors, c'est pas du tout une bière indienne. C'est simplement la bière que les Anglais envoyaient en Inde à l'époque coloniste anglaise.
Pour leurs armées, pour leur
communauté. Pour leur colonie. Et en fait, ils allaient mettre plus de houblon dedans pour une meilleure conservation du voyage. Puisque finalement, la première fonction du houblon était la conservation du produit. Les Américains, il y a 20 ans, ont totalement réinventé ce style et ils ont créé des bières houblonnées. Et ça, en France, on connaît très peu. On va utiliser le houblon à froid, alors que normalement on utilise à ébullition, et ça va dégager une aromatique avec certaines variétés qui va être une aromatique fruitée, avec un petit goût quand même bien puissant en termes d'amertume. Donc pour le palais français qui dit souvent « j'aime pas l'amertume », il y a tout à faire.
La Stout, là, qui est une étiquette noire, donc ça renvoie à la fameuse Guinness, à l'irlandaise, c'est déjà du pain à boire, c'est de la limite pain.
La Guinness, c'est une porteur, donc c'est un autre style de bière brune, en fait. Vous avez plusieurs styles de bière brune. Le Stout, ça va être, alors on dit le Stout, d'ailleurs, parce qu'en plus, c'est masculin. On va avoir un produit qui est un petit peu plus alcoolisé, qui tire plus sur le café. On va utiliser des variétés de malt assez similaires, mais on va aussi utiliser des variétés de houblon qui vont dégager une aromatique bien différente d'une porteur.
Alors, on trouve tout ça dans une centaine de points de vente à Paris, mais pas seulement, puisque vous exportez même d'en avoir. Mais Guillaume Roy, l'actualité, c'est aussi l'ouverture de votre lieu où on va pouvoir déguster?
Alors, le projet, nous, a toujours été de pouvoir ouvrir un lieu qui soit ouvert au public et dédié à montrer notre savoir-faire, en tout cas, aux clients potentiels et aux visiteurs. On parlait pas mal de nos tourismes, etc. Et le tourisme brassicole, c'est quelque chose qui peut énormément plaire. Aujourd'hui, on reçoit des mails de touristes étrangers qui disent « Est-ce que je peux venir visiter la microbrasserie ? Je fais un tour du monde des microbrasseries. » Ils vont visiter vraiment les microbrasseries dans le monde entier. Donc nous, on leur dit « Bon, écoutez, aujourd'hui, on est encore en train de s'installer, on n'est pas bien... » c'est pas encore bien sécurisé pour tout le monde, mais c'est le projet in fine. Donc en fait, à Pantin, on a une vieille usine de 1500 m² où il y a toute une partie production, et c'est un outil de production sur lequel vraiment on rigole pas, on n'a pas lésiné sur les moyens, c'est un vrai outil de production. Donc on parle pas vraiment d'un brew pub où c'est un bar avec des cuves derrière, c'est vraiment une usine et à côté vous avez un bar et un resto. Alors dans un premier temps on va faire ça de manière assez éphémère en espérant ouvrir cet été quelque chose d'un petit peu éphémère, palette en bois, etc. Et l'été 2017, qu'un bar et un restaurant en dur.
Ah ben voilà, parce qu'effectivement, on disait l'œnotourisme, le spiritourisme, tout ce savoir-faire que vous venez nous raconter, messieurs, ça nous intéresse. Alors, le 21 mai, par exemple, Jean-Pierre Cointreau, c'est le printemps des liqueurs.
Le printemps des liqueurs, c'est une manifestation qui existe depuis 2005. On en est au 7e événement. Et nous avons une quarantaine de sites de liqueurs ouvertes au public. Et personnellement, nous ouvrons le Cassisium de Védrennes en Bourgogne. Nous ouvrons la distillerie de la Verveine du Valais. Bien sûr, le noyau de Poissy. Et également le Buron de Salers dans le Cantal. Donc nous avons trois sites qui vont proposer le noyau de Poissy et nos autres liqueurs régionales.
On sent effectivement que ça intéresse les uns et les autres.
On est un peu sur BFM Business. Il faut rappeler 89 millions de liqueurs sont produites de bouteilles.
On peut surtout rappeler
Et je crois que la plupart pour l'export, quoi, Sarah.
Exactement. Les grandes liqueurs de France sont toutes très majoritairement exportées. Et je pense que tout le monde comprendra qu'à l'heure actuelle, l'exportation vers les grands pays, que ça soit l'Allemagne pour l'Europe ou les États-Unis dans les ce qu'on appelle les pays tiers, c'est-à-dire hors Europe, ce sont les moyens de développer nos liqueurs et surtout avec tous les nouveaux goûts que l'on développe dans les gammes de liqueurs, parce que la liqueur c'est d'abord de la créativité, du parfum. Que ça soit avec des fruits, des plantes, voire même des graines.
Bien sûr, parce que là, on parlait du fameux noyau de Poissy qui n'a pas bougé, mais bien sûr, vous aussi, vous êtes créatif. C'est vrai que c'est bon de le rappeler. On rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À la distillerie de Paris, vous organisez aussi des rencontres. On peut venir voir un petit peu, parce qu'on sent que tous, autant que vous êtes, vous avez envie de partager justement ce savoir-faire, Nicolas Jules.
Alors nous, on l'a fait beaucoup. On a fait un crowdfunding, donc on l'a fait avec les crowdfunders. Ouais,
c'est ça. C'était déjà... Vous avez reçu d'ailleurs à cette époque-là, c'était tous les vues, ouais.
Alors, il y a toujours un truc particulier. Ils ont
bien
été...
Ils sont cofondateurs,
incroyable. Maintenant, il y a énormément de gens qui passent. Pour l'instant, c'est majoritairement des
gens avec qui vous travaillez,
des professionnels, des distillateurs, des chefs, des où il y a une réflexion sur cette esthétique. Beaucoup de parfumeurs, on a une connivence avec le monde de la parfumerie qui est assez intéressante parce qu'eux ils ont une capacité à quasiment à sublimer cette idée de l'esthétique du goût. Et presque à le dématérialiser, donc à en parler de manière un petit peu moins...
Et puis, vous avez quand même des outils qui sont proches l'un et l'autre.
Exactement.
Le parfumeur ou le distilleur.
Les métiers de la parfumation basse alcool est né en même temps que les spiritueux. Et donc, pour l'instant, on est plutôt dans cet échange entre professionnels de l'esthétique. Plus tard, on verra peut-être, mais c'est petit, c'est chronophage. On aimerait beaucoup le faire, mais c'est
quand même... Pour autant, à l'épicerie, de toute façon, Gilles, il y a régulièrement des dégustations.
Elles sont toujours en dégustation. On a nos clients et en plus les épiceries Jules, c'est des showrooms finalement.
Ah oui.
Rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10e et puis sinon juste à côté on va au Copper Bay par exemple.
Exactement.
Au bar pour qui vous avez créé un gin.
Voilà, on a énormément de créativité, on a fait je crois 35 références en un an et demi et à un moment il faut bien que elles vivent et donc on réserve des recettes à des bars. On s'inspire un peu d'eux et on crée une recette. Donc on en a fait une pour le Copper Bay, qui est un bar voisin dans le 10e arrondissement.
C'est le quartier des bars en ce moment.
Voilà. Ouais. Pour le Randy Wallou aussi, qui est un bar assez fantastique.
Dans le Marais. Du côté du 404, rue des Gravilliers.
Le Parc Hayat, histoire de s'embourgeoiser un peu. Et en plus,
vous avez raison.
C'est des super barman. On les aime beaucoup. Et beaucoup de, techniquement, les gars assurent très fort. On a fait quelque chose avec le Little Red Door. Il y a cette idée de partage. Nous, après, on peut leur confier les produits. Et c'est très intéressant de voir comment ils peuvent se les approprier. Pour nous, c'est assez passionnant aussi.
Et ben voilà, un tour de Paris et de l'Île-de-France en alcool grâce à vous, messieurs, bien sûr, avec modération. Mais c'est tout un savoir-faire que l'on vient de partager avec vous. Merci infiniment à vous, Guillaume Monroy, pour la bière galloise, Nicolas Gallia. Nicolas Jules à la distillerie de Paris, donc c'est dans le 10e. Gallia, c'est du côté de Pantin, et Jean-Pierre Cointreau pour le noyau de Poissy. Merci beaucoup à tous les trois dans les Yvelines. 78,
c'est ça.
Redonne. Oui. Avenue Charles de Gaulle.
105 avenue du Général.
Avenue du Général Leclerc, j'allais dire Charles de Gaulle.
Je ne sais pas s'il existe encore.
L'Esturgeon, où nous avons des crêpes qui sont faites au noyau de Poissy.
Exactement. Et puis il y avait un
canard aux
cerises formidable. On est sur le bord de la Seine, il y a un arbre qui pousse sur la terrasse, c'est formidable.
Ça y est, vous avez fini.
Bon, allez, bon week-end. Ah, on n'a pas fini l'émission.
Elle n'est pas tout à fait terminée, l'émission. On se retrouve dans quelques secondes sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, Good Luxe vous aide à faire le plein de cadeaux connectés pour la fête des mères. Mais tout d'abord, le petit livre de la semaine. Encore une histoire de gastronomie, quoique c'est aussi une histoire de goût et de Good Luxe. Fade. Ouais. C'est vrai qu'on dit fat, comme ça, ça donne pas terriblement envie. C'est juste le titre de l'ouvrage, écrit par Ryoko Segiguchi, édition Les Ateliers d'Argol. Un tout petit livre tout blanc, sauf que qu'est-ce que ça raconte? C'est la rencontre entre cette journaliste et Koji Igaki. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, sauf que si je vous dis le restaurant L'Inconnu à Paris, oui. Là, Emmanuel, ça vous dire quelque chose. C'est le restaurant italien tenu par un Japonais, 4 rue Pierre Leroux dans le 7e. Et donc, eux, les Japonais, ils ont cette idée un petit peu du comme ils ont l'umami, cette
cinquième
saveur qu'on maîtrise pas nous tellement occidentaux. Ils ont travaillé et réfléchi ensemble à cette idée du fat. C'est juste un petit texte délicieux et c'est surtout une rencontre autour d'un plat, le cabillaud pané de risotto à l'encre de seiche et navet. Donc elle disserte là-dessus et surtout ces petites explications, vous pourrez les avoir au restaurant L'Inconnu du 14 au 19 juin, vous aurez les plats et la petite explication de Ryoko Segiguchi.
C'est pas mal, parce que c'est vrai que je l'ai pas lu, hein, donc c'est très précis, très précieux, peut-être à la limite du précieux. Mais en tout cas, si on veut comprendre justement la sensibilité de la cuisine japonaise et surtout de ces jeunes chefs japonais qui aujourd'hui se confrontent à la cuisine française, italienne, faut justement comprendre que pour eux, la cuisine est véritablement un art, donc parfois un petit peu une abstraction, parce que c'est éphémère, parce que tout disparaîtra, justement. C'est ça qui lui donne une dimension supérieure à bien d'autres arts, alors que nous, on est dans nos contrées beaucoup plus gréco-latines, un art, ça doit rester marqué, inscrire dans le temps. Et puis surtout, ils ont des notions de saveur, une chromatique, une échelle de goût bien différente de la nôtre. Vous l'avez parlé de l'umami, cette cinquième saveur, mais chez eux, le fade est un goût. Et surtout, on le sait peut-être un peu plus, la tiédeur. La tiédeur, c'est quelque chose qui est terriblement recherché dans la cuisine nippone. D'ailleurs, un sushi, il doit avoir la température de votre main, de votre corps. Si un sushi ne doit pas être dégusté froid, certainement pas brûlant, vous savez, c'est sushi gelé, c'est une hérésie. Faut vraiment que c'est la tiédeur, c'est vraiment quelque chose qu'un cuisinier japonais va rechercher. Donc l'ouvrage, à mon avis, est intéressant.
Voilà, c'est une manière de toucher du doigt un petit peu cette vision-là pour ce petit livre, tout simplement fade aux éditions Les Ateliers d'Argol. Allez, la chronique high-tech.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.
Christopher Siminelli, bonjour,
bonjour.
Spécialiste high-tech de la maison. Alors, vous êtes dit, on va commencer à s'occuper de la fête des mères, ça arrive, hein, c'est le 29
ouais,
mai.
Ouais, exactement, faut prendre un peu son temps, hein, c'est dans 2-3 semaines. Donc, c'est maintenant qu'il faut décider ce qu'on va faire comme cadeau.
Très bien, alors, appareil photo, pardon.
Oui, alors, vous connaissez tous, vous savez tous que le marché des appareils photo est en perte de vitesse, on utilise tous nos smartphones, hein, clairement les compacts et tout ça, ça tend à disparaître. Mais on remarque une tendance qui est à l'extrême opposé, c'est le grand retour de l'appareil instantané, hein, vous savez, hein, comme les Polaroids de l'époque, comme celui que j'ai en main, c'est l'Instax Mini 90. Alors, il peut développer vos clichés immédiatement.
Instantanément.
Voilà, et c'est vrai que même s'il a un look hyper hyper rétro,
rien que le look comme ça gainé de cuir, ouais. Déjà ça a de l'allure.
Alors, c'est pas du vrai cuir, mais en tout cas, ça fait son petit effet et c'est très sympa. Alors, il a beau avoir un look hyper rétro, c'est vrai que il correspond quand même à une attente très dans l'air du temps, qui est celle de l'immédiateté. On a envie de prendre en photo et de prendre une photo et de l'avoir tout de suite.
Un peu le papier,
voilà, de l'avoir tout de suite en main. Regardez, ça fait des petites photos comme ça que j'ai en main que vous pouvez partager tout de suite.
Il faut attendre comme le Polar.
Il faut attendre. Ouais. Il faut attendre quelques secondes, comme un Polaroid. On met les recharges à l'intérieur. Il y en a pour 1 euro à peu près le cliché. On achète ces recharges.
Et les recharges, c'est bien équipé parce qu'il y avait un déficit.
Oui, alors autant il y a un déficit sur les recharges de Polaroid, mais sur ce modèle qui est un modèle hyper récent, c'est Fujifilm qui s'en occupe. Grosse boîte de la photo. Et clairement, il n'y a aucun souci pour se procurer des recharges. Alors, au-delà de son look qu'on adore, hein, sérieux, clairement dans la tendance du rétro, il y a plein de fonctions hyper sympas. Par exemple, le mode enfant. C'est impossible aujourd'hui de prendre une photo nette de ses enfants. Aujourd'hui, il y a un mode enfant. Donc, surtout que là, on ne peut pas se permettre de prendre 10 clichés, de sélectionner juste
un euro de cliché.
On fait quand même bien attention avant de déclencher. Il y a aussi un mode double exposition. Bon, c'est un peu du gadget, mais ça permet de superposer deux images pour faire des effets un peu arty. Voilà. Donc, c'est une super bonne idée pour la fête des mères, par exemple.
Et les photos, elles sont de qualité, quand même.
Les photos, elles sont de qualité.
Regardez, ce cliché
un rendu,
sympa.
J'ai pris en photo la régie, là, juste avant de venir. Je rends hommage, d'ailleurs.
Notre réalisatrice, Laura, en plein boulot.
Et donc, ça coûte 149 euros. Et comme je l'ai dit, il faut compter environ 1 euro par photo.
Parfait. Donc ça, c'était le petit appareil photo Instax. Et puis, une montre.
Une montre, voilà. Alors, c'est celle-ci. Cette montre, on la doit à Weezings. Vous savez, c'est une boîte française spécialisée dans les objets connectés, à tel point qu'elle est devenue vraiment une marque référente sur le marché mondial. Elle a été rachetée par Nokia. Là, ça a été annoncé tout récemment. Ouais. 170 millions d'euros. Petite parenthèse sur la French Tech, hein, qu'on salue. Mais voilà, cette montre, elle est, on dirait pas comme ça, mais elle est bourrée de capteurs.
Elle est d'une sobriété.
On peut même se demander qu'est-ce qu'elle fait dans la chronique tech de Good Luxe. Eh bien, elle y a largement sa place. Elle a un podomètre, un tracker d'activité. Elle sait compter votre nombre de pas, que vous soyez en mode running ou bien quand vous êtes à la piscine, dans votre session de natation. Elle peut même traquer votre sommeil et elle vous offre une analyse après sur votre smartphone de la qualité de votre sommeil. Et
elle fait tout ça, cette toute petite montre.
Elle fait tout ça,
plate,
exactement.
Elle est hyper féminine.
Le boîtier est d'un classicisme à toute épreuve. Le bracelet, j'en parle pas.
Alors justement, parlons-en du bracelet, parce que
on
cette montre
qu'il y a quelque chose
existe déjà. C'est une édition spéciale faite des mères, développée par Weezings, avec un cuir vénitien, franchement de très très bonne qualité.
Ouais.
Au toucher, c'est très agréable. Voilà, et en plus dans son petit écran qui devrait plaire aux mamans. Voilà,
ça s'appelle
Weezings
Activité
Style. 249 euros.
Ouais,
voilà.
Super.
Et une petite parenthèse, vous savez, l'Apple Watch, l'autonomie, c'est quoi?
Je sais pas, j'en ai pas.
Pas grand chose.
Un jour et demi, 2 jours. Ouais. Là, on est à 8 mois. Wow. 8 mois d'autonomie.
Oula.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écran.
C'est
quand même un sacré avantage.
Eh ouais, super, bravo. Et puis alors, qu'est-ce que vous nous avez amené là?
Un peu moins chic, mais très étonnant. Qu'est-ce que j'ai?
C'est un diffuseur, une ampoule.
C'est une ampoule, mais pas n'importe quelle ampoule. C'est l'ampoule dont tous les geeks rêvent, mais aussi les mamans. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle intègre un diffuseur d'odeur. Vous allez dire, une ampoule qui diffuse des odeurs, comment c'est possible? Eh bien, voilà. Vous avez cette petite éponge sur laquelle vous mettez des huiles essentielles, l'huile essentielle de votre choix. Vous l'insérez à l'intérieur, voilà, ici. Et donc, elle est connectée en Bluetooth à votre smartphone. Et depuis votre smartphone, vous pouvez contrôler, activer la diffusion des odeurs. Vous pouvez aussi programmer des plages horaires durant lesquelles vous voulez que vos huiles essentielles soient diffusées. Vous pouvez aussi changer d'huiles essentielles. Voilà, c'est plutôt pas mal pour donner une ambiance un peu parfumée à différentes pièces de la maison. Mais elle fait pas que ça, figurez-vous.
Parce qu'elle est claire aussi, l'ampoule.
Elle est claire. Et donc, comme des ampoules Philips Ambilight, vous avez déjà dû voir ça. Donc, elle fait exactement la même chose. Vous avez plein de couleurs différentes et vous pouvez donner une ambiance colorée différente.
C'est ça. Donc on peut préparer la chambre, par exemple, à l'endormissement.
Exactement.
Avec la lumière
qui diffuse,
et puis les petites huiles essentielles pour s'endormir.
Exactement. Ou à l'inverse, vous faites une énorme soirée chez vous. Vous pouvez vous amuser à faire une ambiance totalement psychédélique.
Ouais. On n'a pas fait la même vie.
On fait le lien avec la musique. Il y a un truc qui est très étonnant, qui est la particularité de cette ampoule. Les couleurs peuvent varier dans la pièce au rythme de des chansons que vous êtes en train d'écouter sur votre smartphone.
Ah, ça fait tout.
Voilà.
Ça fonctionne plutôt bien.
Et la bonne nouvelle, c'est que ce truc-là ne coûte que 49 euros. On est à 3 fois moins cher que d'autres produits.
C'est vraiment qui sera content.
Et tout ça, c'est vraiment... Et en plus, c'est hyper facile à mettre en place.
Qui fait cette ampoule connectée?
Alors, ça s'appelle Avox. AWOX.
Parfait. Merci infiniment, Christopher. Alors là, on a le choix de l'embarras et l'embarras du choix. Allez, l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
On n'a vraiment plus beaucoup de temps, Emmanuel.
Les expos, laquelle?
Alors, vous choisissez l'expo, laquelle vous voulez, rapidement.
Allez, rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, et la prochaine, elle va ouvrir que cette semaine, donc j'aurai le temps d'en parler le week-end prochain. Donc, je vous parle de celle qu'elle est déjà installée depuis quelques semaines. Il faut foncer. C'est à la Grande Halle de la Villette. C'est l'exposition hommage à James Bond 007. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont en retard sur la sortie du film Spectre, mais c'est cette année que l'on fête l'anniversaire de Monsieur James Bond, qui a 50 ans. Et surtout, l'exposition est très bien faite, parce qu'ils ont réussi à capter 500 pièces iconiques et originales, ces fameuses pièces qui ont fait la mythologie, alors du smoking blanc à la mâchoire du méchant, de l'Aston Martin, de je ne sais quel opus, en pensant par le fameux pistolet d'or, de l'homme au pistolet d'or. Vous les retrouvez tous, jolie scénographie, et on s'aperçoit effectivement que James Bond avait, et surtout son créateur, Ian Fleming, inventé le placement produit dans la littérature, que bien sûr les brocolis, lorsqu'ils sont passés au cinéma, eux aussi ont poursuivi avec ce placement produit, et que eh bien, James Bond, sans tout cet univers, cette culture marque, quelque part, ce serait pas tout à fait James Bond pour les amateurs. Et pas seulement, c'est absolument exceptionnel.
C'est la grande âme de la Villette, on imagine bien. L'exposition James Bond. Et puis, le 20 mai, à noter sur vos tablettes, de la cuisine, de la gastronomie, de la musique, du bon temps. Ça se passe là aussi, pas très loin, parce que c'est la rotonde de la Villette. Et ça s'appelle Foodstock, la 9e édition de la veillée Foodstock organisée par le Fooding à la rotonde Stalingrad. Keren Ahn, Gaëtan Roussel, l'impératrice pour la musique, Dersou, My Free Kitchen ou encore No Glue et j'en oublie aux cuisines et puis également au checker, Amaury Guyot. Enfin voilà, vous avez du beau monde.
Joli casting.
Bien sûr, il faut réserver. Bénéfice des entrées reversées à l'association caritative Les Enfants du Congo.
Réserve sur lefooding.com.
Exactement, ouais, vous trouvez tout ça sur Internet. C'est la veillée Foodstock, je crois même qu'il y a un site veillée Foodstock. Et c'est le 20 mai, voilà, on n'a plus de temps pour le reste. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Je parlerai.
Pour d'autres Good Luxe en attendant, Good Luxe Paris, c'est le best-of dans un instant sur BFM Business.